Juliette Fievé.
Bonjour Tom.
Bienvenue sur Énergie.
Enchantée, merci de me recevoir.
Dans quelques instants, tu vas rentrer en stase. L'état de stase, c'est l'arrêt du temps. Mais avant, il faut passer par une étape importante, c'est la rétrospective. La rétro, c'est une interview de 30 secondes durant laquelle je vais te poser des questions sur des moments clés de ta vie. Les horloges s'arrêteront ensuite de tourner et nous pourrons démarrer la discussion. Est-ce que tu es prête?
OP.
Juliette, ta date de naissance?
6/7/78.
La ville où tu as grandi?
Fournes-en-Webb.
L'endroit préféré de ton enfance?
Fournes-en-Webb.
La personne qui t'a le plus inspiré?
Ma maman et ma grand-mère.
Le premier album rap que tu as acheté?
Fur of the Black Planet de Public Enemy.
L'interview qui t'a le plus marqué?
Waouh! Elle est dure celle-là. En plus, c'est stressant, j'ai l'impression d'être dans question pour un champion! Tellement!
Ça me va, on passe
tellement.
En stase. Juliette, au cours de ce podcast, on va voyager d'abord dans ton présent, ensuite on ira dans ton passé et enfin dans ton futur. Depuis 2019, tu reçois toute la scène hip-hop, rap et afro dans ton émission Légendes Urbaines. Légendes Urbaines, un titre qui pourrait nous laisser croire qu'on va regarder une émission dédiée au paranormal, avec un générique qui imite celui de la quatrième dimension. Et finalement, dans son apparence, Légendes Urbaines n'adopte pas trop de code urbain. Est-ce que c'est volontaire?
Tout à fait. C'est volontaire parce que j'avais envie de raconter une histoire qui est peu souvent racontée. On interviewe souvent des artistes de variété française, des cinéastes, des réalisateurs, des auteurs, de façon très bienveillante. On leur accorde beaucoup d'intérêt, souvent beaucoup de temps pour qu'ils puissent raconter leur épopée, leur carrière, leur vie, leur itinéraire. C'est rarement le cas dans le rap. Dans le rap ou dans les musiques dites africaines ou caribéennes. Il y a beaucoup d'interviews qui sont faites dans le sens de la musique, qui sont des interviews magnifiques, mais on accorde très peu d'importance finalement à l'humain pur. Et c'était important pour moi d'être en média généraliste et de raconter cette histoire et de mettre en avant l'histoire de tous ces artistes qui sont souvent très caricaturés, dois-je dire.
Donc oui, c'était
très volontaire. Ouais.
Oui. L'émission faite par nous pour tous,
exactement.
Justement.
Ouais.
C'est pour ça que tu lances chaque émission avec ce slogan-là.
C'est important parce que, effectivement, dans la culture hip-hop, tu as le FUBU, For Us By Us. Et moi, je ne suis pas trop communautariste, même si ça s'explique aux États-Unis, le For Us By Us. En l'occurrence, c'était important de pouvoir parler de nous, puisqu'effectivement, je ne suis pas rappeuse, mais j'ai été manager, donc je considère faire partie pleinement de ce mouvement. Mais je voulais conter l'histoire par nous, mais pour le plus grand nombre, en fait. Parce que j'ai conscience aussi que bon nombre de gens, il y a des détracteurs, d'accord, mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas les codes. Et beaucoup de gens qui auraient envie de comprendre qui sont les protagonistes du rap, sans pour autant en avoir les clés. Je pense à une maman qui va avoir une soixantaine d'années, qui voit que ses enfants écoutent, ou ses petits-enfants écoutent Kalash Criminel, le gars a une cagoule. Si tu n'as pas les codes, tu ne peux pas soupçonner le fait qu'il est super fort en géopolitique, qu'il est hyper cultivé, que l'un de ses rêves est de monter une fondation pour sauver les animaux dans le monde, c'est pas forcément perceptible à première vue. Et donc ça me fait plaisir de pouvoir aussi, de façon bienveillante, donner des clés au plus grand nombre, d'où le par nous pour tous.
Vous êtes combien à travailler sur Légendes Urbaines?
Peu nombreux. Je suis avec mon réalisateur, qui lui s'occupe de toute la partie image, et depuis quelques temps maintenant, j'ai un community manager, voilà. Et donc, pendant les tournages, Kama, qui fait la régie et qui accueille les artistes, et Emeric, qui fait le billet d'humeur légendaire autour de la psychologie des artistes. Mais voilà, je suis seule à écrire, à programmer l'émission de A à Z.
Donc, vous êtes 4-5, c'est ça?
On est 3, et le jour des tournages, on est 5, ouais.
Ouais, c'est toujours plus qu'à stase. Je suis tout seul.
mais petit à petit, tu vois, c'est toujours les médias et nos métiers, dans lesquels il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus, te demandent une certaine patience et endurance.
Selon toi, qu'est-ce qui fait une bonne interview?
Le travail, la connaissance de son invité. Quel que soit l'interview, quel que soit le ton, je pense qu'une bonne interview se doit d'être travaillée. C'est fondamental. Aujourd'hui, tout le monde pose absolument les mêmes questions, te font la fiche Wikipédia, et ça peut s'avérer être assez redondant, en fait, tant pour l'auditeur ou le téléspectateur que pour l'artiste. Il n'y a que le travail qui te permet d'aller sur divers angles. Et puis après, ça c'est, à mon sens, pour moi, ce qui est une bonne interview, c'est une interview bienveillante, en fait. Ouais, la bienveillance, c'est très, très important et cher à mon cœur.
Tu m'as ôté les mots de la bouche, c'est exactement sur ça que j'allais te relancer. Mm-hmm. Parce que souvent, la bienveillance... Je me souviens de Gims qui a dit dans une vidéo là, qui a été postée sur Internet, ce qu'il reproche parfois aux journalistes, c'est qu'ils se sont piégés. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'artistes qui ont ce sentiment-là aussi.
Je pense qu'en fait, on est dans la culture du buzz d'une façon générale. On a été aussi beaucoup dans la culture des vidéos courtes. Les gens ont 3 secondes de patience, ça scrolle à la vitesse de la lumière. Et du coup, les gens veulent du buzz, veulent du son. On fait appel en fait à l'instinct primaire de l'être humain. Et en plus, malheureusement, on vit dans des sociétés, particulièrement en Occident, où en fait, on te dit, on te laisse croire que... le cynisme, la méchanceté, les piques envoyées, les cadavres dans le placard qu'on va sortir sur nos invités est une preuve d'intelligence. Et on va, paradoxalement, te laisser penser que la bienveillance, c'est être gnangnan, c'est être un petit peu teubé en fait. Or, c'est absolument pas le cas. Mais pour être bienveillant et faire une bonne interview, encore une fois, ça demande du travail. Alors qu'en fait, c'est facile de clasher. C'est plus facile de faire du mal aux gens que d'être bienveillant en fait. Et j'ai refusé, en tout cas moi personnellement, de surfer là-dessus. Mais je pense que c'est un sérieux manque de travail. Et puis, au-delà du manque de travail, je crois qu'en fait, on est dans une société où on te fait courir derrière les clics, les vues, le buzz. Il faut que ta vidéo ou ton podcast remonte dans les algorithmes, etc. Et en fait, tout te donne le sentiment que bah, c'est avec du buzz et des larmes du sang que tu vas remonter dans les algorithmes. Ce qui n'est pas tout à fait faux, en fait. Hein. Malheureusement, c'est ça aujourd'hui. Mais je me refuse à ça, encore une fois. Je pense qu'être derrière un micro, face à une caméra, c'est une responsabilité. Et je sais quelle responsabilité je prends. Et je suis prête à prendre. Et l'idée, c'est d'envoyer de la lumière, des bouffées d'oxygène au maximum de gens. Je pense qu'on est bien assez pollués par des drames géopolitiques, politiques, des guerres qui sont bien plus sérieux qu'une interview d'artiste.
Est-ce que cette situation délétère est récente, selon toi ? Cette course au buzz ?
Elle n'est pas récente, elle prend en vitesse depuis 10 ans en réalité. Évidemment qu'il y a toujours eu des gens qui voulaient du buzz, t'as toujours eu plein de magazines à scandale qui cartonnaient, etc. Donc ça fait appel juste à l'instinct primaire de l'être humain. C'est-à-dire qu'en fait, bon, j'étais pas née, même si je viens du Moyen-Âge, mais j'ai en réalité, il y a 300 ans... Les gens allaient sur la place publique en famille avec leurs enfants pour voir quelqu'un se faire couper la tête. C'était un spectacle, tu vois. Les gladiateurs, c'était un spectacle. Il n'empêche qu'on voyait des gens mourir, en fait. Donc ça, c'est l'instinct primaire. Et puis, il y a eu la télé-réalité. Et puis, il y a eu toutes ces émissions de compète. Toutes ces émissions où, ok, tu vas manger chez quelqu'un, mais t'es en train de le monter en l'air dans la salle de bain, lui donnant des notes. Tu ouais. Te maries le plus beau jour de ta vie, tout le monde se clash, etc. On est sur des formes de programmes qui ne sont qu'exclusion, en fait, principalement. C'est pas bon enfant, ça. Mais ça fait partie du buzz, des clashs, de celui qui aura la joute verbale la plus violente, etc. Et donc, encore une fois, ça fait appel à notre instinct primaire. Mais... Là, c'est de pire en pire. C'est, comme dirait Ramzy, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, en fait. Là, ça devient n'importe quoi, en fait. Parce qu'en plus, tout le monde s'estime journaliste, tout le monde s'estime reporter, tout le monde estime être, avoir une parole importante, et ça devient un brouhaha qui, malheureusement, n'est pas forcément très bienveillant.
Pour revenir au rap, pour revenir à la légende urbaine, si l'âge d'or du rap en France était dans les années 90, comment nommerais-tu l'ère du rap des années 2020 ?
Tout le monde dit l'âge d'or. Moi, je les ai connus, hein, en fait, hein, les années 90, mais je trouve que les années 2000, c'est aussi l'âge d'or, en fait. Alors après, il y a énormément de rap. Il y a énormément de production. Donc, du coup, forcément, il y a de tout. Mais si considérer que Ninho remplit 2 stades de France en moins de 24 heures, que Booba a fait son stade de France, que Jul a rempli aussi le stade de France, qu'il y a 1 million de personnes sur... liste d'attente, s'ils considéraient que ça, c'est pas l'âge d'or du rap, je sais pas ce que c'est. Donc, quelque part, ouais, on y est encore dans l'âge d'or. L'âge d'or, c'est souvent un adjectif pour les mélancoliques ou les nostalgiques. Je suis pas nostalgique, moi. Dès lors que le rap continue à évoluer, à progresser, à se transformer, à créer de nouvelles formes, de nouvelles vibes, on est toujours dans l'âge d'or. C'est comme quand tu parles d'un classique en musique. Et je parlais de ça avec Kerry James, qui avait, avec l'album Idéalgie, le combat continue, qui est réellement considéré comme un classique du rap français, entre autres, hein, ou l'école du micro d'argent pour IAM. Je pense que tu peux déterminer ce qu'est un classique avec du recul et avec des années de recul. Et pour le moment, depuis début 90, je trouve que la progression du rap, elle est pas mal. Donc on est sur l'âge d'or, là, on est peut-être sur l'âge de platine, je sais pas. Hein. Qui sait ?
Qui sait ? Belle consécration pour toi. En juin, tu seras faite chevalier de la Pléiade.
Ouais, chevalier de l'ordre de la Pléiade, c'est assez incroyable. Ouais, je suis très, très émue. Très émue, très fière de ce titre honorifique absolument pas attendu. Ouais.
Ouais, comment tu l'as appris en fait ? Comment
je l'ai appris par une lettre en fait de la francophonie et qui m'annonçait que j'allais recevoir cette médaille de chevalier pour l'ensemble de mon travail pour la culture francophone ouais, dans le monde. Et c'est vrai que moi qui n'ai jamais eu de diplôme, si j'ai eu le bac à peu près par hasard, et qui suis une autodidacte, tu sais quand t'es autodidacte, t'as le syndrome de l'imposteur. Bon nombre, autodidacte ou pas, on a souvent le syndrome de l'imposteur. Mais quand on n'a pas les diplômes, bah, on l'a encore plus. Et puis le monde se charge de te le rappeler en disant « Ah super, t'as un Master 1000, t'as une carte de presse, t'as fait une école de journalisme. » Et comme j'ai rien de tout ça, c'est vrai que j'ai rarement eu ces petites médailles, ces bons points, ces trucs. Et c'est vrai que celui-là, je dois avouer que c'est quand même un sacré bon point. C'est ça, un sacré diplôme. Pouvoir se ranger à côté de Senghor ou Bernard Pivot, si tu veux, c'est presque irréaliste pour moi et ça me donne du baume au cœur. Et au-delà de ça, je trouve que cette victoire, elle est collégiale. Ça veut dire que je suis issue du rap, en fait. Ça veut dire ce que ça veut dire, ça aussi, aujourd'hui. Je ne suis pas une autrice qu'on croise au Café de Flore, tu vois, qui a fait des études dans le 7e arrondissement. Et qui sort du cercle des poètes disparus. C'est pas ça mon histoire, en fait. Donc si aujourd'hui on donne un titre honorifique aussi élitiste à une personne comme moi, c'est aussi reconnaître tout un univers, c'est reconnaître aussi la plume des rappeurs, c'est reconnaître tous les protagonistes de ce mouvement, de cette musique et de cette culture. Et j'en suis très fière.
Juliette, il est temps d'explorer ton passé. Juliette ou Yarda, née à Lille ou à Paris. Tu as un passé un peu particulier car tu as été abandonnée à l'âge de 2 mois et demi, puis adoptée quand tu avais 2 ans. Tu as décidé d'ouvrir ton dossier de la DAS quand tu avais 30 ans. Qu'est-ce qui t'a poussée à ouvrir ce dossier ?
C'est rigolo, je crois que c'est la première fois. C'est vraiment la première fois qu'on aborde ce sujet, c'est marrant. Juliette ou Yarda, les deux. Juliette, officiellement. Yarda, tu vois le Y sur mon pouce. Là, pour ne pas oublier que je suis aussi cette petite fille. Lille ou Paris, bah Paris et Lille, tu vois, c'est rigolo. Parce qu'en effet, j'ai presque une double identité. Je suis née sous le nom de Yarda Geo, née à Paris. Et la DAS, à l'époque, où le système social était un peu, je ne sais pas, tu vois, j'ai du mal à l'expliquer. Mais j'ai eu... je crois, 4 ou 5 actes d'extrême naissance différents en fonction des familles d'accueil dans lesquelles je passais. Donc j'ai fini par devenir Juliette Fievé, née à Lille. Et c'est assez rigolo, parce qu'à chaque fois qu'on me demande ma date de naissance et mon lieu de naissance, j'écris Lille et j'ai conscience que je mens, tu vois. L'ouverture de ce dossier de la DAS, franchement, ma mère me l'avait proposé quand j'avais 15 ans, etc. Jamais fait de crise existentielle par rapport à tout ça. Vraiment, j'ai toujours estimé avoir de la chance, en fait, d'avoir été adoptée par des parents aimants. Mais je suis allée faire un tour chez un psy, une psychothérapeute. Pas du tout parce que je pensais avoir un problème. Je pensais y aller 3-4 fois pour apprendre la programmation neurolinguistique, les raquettes, la connaissance de soi. Bon, je suis restée 3 ans et demi finalement. Mais bon. Et au cours d'une séance d'hypnose, c'était hyper intéressant. Cette psy s'appelle Jeanne Delafont. Elle est brillantissime, elle est extraordinaire. C'est une dame qui sauve des vies réellement, de par son talent et sa bienveillance. Et au cours d'une séance d'hypnose où tu remontes, tu parles à ton enfant intérieur, etc., etc., je me suis rendu compte que c'était peut-être important d'aller parler à cette petite fille. Voilà. Donc j'y suis allée, j'ai ouvert le dossier.
Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ?
Franchement, beaucoup de détachement, sincèrement. Alors je ne sais toujours pas si c'est parce que c'est tellement violent finalement que tu es complètement dissocié, donc du coup tu as l'impression qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. Mais je ne crois pas, je pense qu'en fait, tu sais, c'est tellement... C'est lunaire. Tu découvres des trucs, tu tires des fils, tu es là, tu cherches vaguement ta génitrice. Je l'ai cherchée sans grande conviction, si tu veux. C'était plus pour connaître un peu plus mon histoire et peut-être connaître, comprendre ma personnalité ou mes réactions. C'était vraiment dans un but de psychologie. Je ne cherche pas une autre maman ou un autre papa. Je considère que être parent, ce n'est pas concevoir, c'est élever, c'est donner de l'amour, c'est éduquer. C'est ça, être parent. Et en ce sens, je pense avoir eu vraiment énormément de chance. Donc, comme je suis toujours estimée un peu chanceuse, j'ai toujours vu tout ça avec beaucoup de recul. Et puis après, dans ma philosophie, dans ma spiritualité, moi, j'ai toujours eu le sentiment que les âmes ne reviennent pas sur Terre de façon non calculée. Je pense qu'en fait, on revient à un endroit précis pour apprendre ce que l'on a à apprendre. Donc, je suis assez détente là-dessus. Mais c'est vrai que c'est très étrange. Et là, c'est fou. C'est assez dingue comme expérience.
Il y a les vieilles âmes et les jeunes âmes, dit-on en spiritualité.
Mm-hmm.
Toi, tu serais quoi, une vieille âme ou une jeune âme ?
J'en ai aucune idée. En tout cas, ce n'est pas à moi de le déterminer. Je pense que j'ai un peu roulé ma bosse. Parfois, je me dis que j'ai 4000 ans. Et parfois, comme le dit si bien Einstein, le comble de la bêtise, c'est de reproduire le même schéma en s'attendant à un résultat différent. Et je peux te garantir que je suis la reine de la reproduction de schéma. Tu dois pas faire ça, tu le fais. Je suis un peu mougli aussi, l'enfant sauvage. Donc, je suis une vieille âme à certains endroits et certainement bien jeune et bien immature à d'autres.
Ça t'a pas empêché d'apprendre des choses, ça t'a pas empêché d'avoir ce chemin-là.
Ouais, bah parce que l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Et que je considère que tant qu'on est ici en vie, malgré l'adversité, malgré les difficultés, il faut y aller. Et puis, même si comme tout le monde, je veux dire là, on est au mois de février en PLS, on se demande quand est-ce que ce tunnel va s'arrêter. Malgré tout, quand tu regardes 80%, l'état de 80% des pays dans le monde et les conditions de vie de nos compatriotes humains, tu te dis quand même qu'on est pas mal lotis en fait. Parce que contrairement à beaucoup d'entre eux, on a le champ des possibles. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup. Je pense ne serait-ce qu'un trésor que nous avons, c'est d'avoir le passeport français, tu vois, par exemple.
Oui.
Moi, je sais que si demain, ça part en vrille, je veux changer de vie, je peux toujours aller vendre des frites au Costa Rica, des cocktails en Thaïlande, c'est possible, en fait. Je ne vois pas tellement de pays où on va refuser le visa français, en fait. En revanche, j'ai vu, moi, des cas, mais qui m'ont marqué à vie, notamment un grand vétérinaire congolais. Bac plus 1000, un très très grand spécialiste des gorilles dans les réserves. Il est tellement brillant ce monsieur qu'en fait des universités françaises l'ont appelé afin qu'il devienne titulaire en fait et des grands, des grands scientifiques lui ont demandé de venir partager les travaux et l'expérience avec eux. Or ce monsieur, il est congolais du côté de Brazza et on lui a juste refusé le visa. Donc il a été aucunement titulaire, il a aucunement pu partager ses travaux avec d'autres scientifiques. Et quand tu vois ça, tu dis que c'est profondément injuste et que c'est de la science-fiction. Donc, effectivement, on a tous notre spleen, les coups de mou, etc. Mais le fait de continuer, c'est aussi un peu de décence. C'est avoir un peu de décence face à 80% des gens sur cette planète qui n'ont pas le champ des possibles que nous avons.
Tu grandis à Fourn-en-Wep, à quelques kilomètres de Lille.
Ouais.
Et en regardant la télé, tu tombes sur une émission qui s'appelle Rapline.
Mm-hmm.
Et c'est un peu la révélation.
Complètement. C'est la révélation parce que moi, j'ai toujours un peu hurlé comme un putois face aux injustices de ce monde. Mes parents qui étaient moi, j'étais dans une famille un peu de taiseux, donc ça parlait pas beaucoup. Des ch'tis, ça fait la fête, etc. Mais c'est globalement des bosseurs, ils sont dans les travaux publics. On faisait pas des débats philosophiques à la maison, en fait. Et c'est vrai que j'avais, moi, une proportion à être, à m'indigner face aux injustices de ce monde. Et puis après, très vite, quand tu rentres au collège, enfin, Même avant, en primaire, tu te rends compte qu'en fait, t'es différent. T'es différente physiquement des élèves avec qui tu es. Dans ma famille, je suis blanche. Juliette, il n'y a même pas d'histoire de blanc, de noir, d'origine. C'est vraiment pas du tout un sujet. Mais quand tu sors à l'extérieur, là, ça devient un sujet. Pas pour moi, mais pour les autres, en fait, visiblement. Et donc, d'un seul coup, j'ai un traitement qui paraît très étrange. Et je me retrouve très vite face à des injustices. Donc, à titre personnel, en plus des injustices que tu vois dans le monde, tu vois, je me souviens, moi, ma chanson préférée quand je devais avoir 4 ans, c'était l'Éthiopie. Je sais pas si tu te souviens, loin du cœur et loin des yeux. Moi, ça pouvait me faire pleurer, tu vois, de constater l'état du monde dans lequel on vivait. Et du coup, je m'énervais toute seule. Et je crois qu'en fait, découvrir le rap, découvrir une forme qui dénonçait des injustices avec beaucoup plus de vocabulaire que je n'en avais à l'époque. Quand t'es petit, t'as pas le vocabulaire à hauteur de tes pensées. Ça a été une révélation, en fait. Ouais, vraiment. Ça a été un choc. Me dire, oh, waouh, les mecs expriment exactement ce que je ressens, que je ne suis pas capable d'exprimer. Et en plus, la forme, elle est hyper stylée, en fait. Et ouais, ça a été vraiment un vrai coup de cœur.
Tu m'as dit que tu as été confrontée aux injustices très rapidement.
Ouais.
À partir de quel âge ?
Oh, super tôt, en fait. C'est bête, mais moi, je me revois, je ne sais pas, je devais être en CM1 ou CM2. Je crois qu'on me demandait si j'étais tombée dans un bol de chocolat. Tu sais, des trucs d'enfant, en fait. Donc, je me revois dire à ma mère, elle me dit, ouais, bah, eux, tu leur dis qu'ils sont blancs comme du blanc de poulet. Enfin, tu sais, donc, ma mère me donnait des répliques. Je crois que la plus grosse injustice, enfin, il y en a eu plein, parce que tu peux te faire insulter aussi, parfois, tu vois, et ça m'est arrivé dans la rue, gratos, par des gens qui passent en voiture ou en mobylette, tu vois, il y a des trucs un peu bizarres, quand même. Particulièrement quand tu n'es pas conditionné à ça, quand tu n'as pas été élevé là-dedans. C'est lunaire. Mais je t'en raconte une belle, celle-là, elle est magnifique, en fait. Je suis en troisième dans un collège qui s'appelle Sainte-Marie-Beaucamp. J'étais en école privée, qui est une école hyper réputée dans le nord de la France, certainement la meilleure école privée. Et il y a 10 classes de troisième, donc ça va de la maternelle jusqu'au lycée, en fait. C'est vraiment un immense, immense institution.
Ouais.
Dans laquelle 80% des gamins qui sont plutôt issus de la bourgeoisie. Et après, t'as 20% de prolétaires, un peu comme moi, classe moyenne, dont les parents ont réussi à se saigner en sorte qu'on puisse accéder à cette école. Mais moi, c'est vrai que j'avais des gamines qui avaient des sacs Lanvin à l'âge de 11 ans, au calme, en fait, et qui faisaient des rallyes. Voilà, les rallyes où on se réunit entre eux, c'est une espèce de truc un peu consanguin s'assurer que la jeunesse dorée... se marient entre elles, en fait, elles se fréquentent. Mais bon, il n'empêche que j'étais pas impopulaire, en fait, c'était cool. Et en fait, il y a 10 classes de 3e, et je deviens déléguée, et ensuite je deviens déléguée des délégués des élèves de 3e. Donc tu connais, on a tous fait de l'instruction civique, avec une boîte à chaussures comme urne, un rideau de douche pour isoloir, tu vois, on a tous fait le truc. Le lendemain, je suis convoquée à 8h par le directeur, mon prof principal, je ne sais plus combien de profs, etc. Je me retrouve devant 5 adultes qui me disent « Mademoiselle Fievé, vous êtes déboutée. » Et je suis déboutée de... C'est le truc complètement lunaire. C'est coup d'État, tu sais. Et genre, je suis déboutée de quoi, tu vois, enfin. Et la seule et unique réponse que ces adultes m'ont donnée à l'époque, c'est « Vous n'êtes pas représentative des élèves de Sainte-Marie-Beaucamp. » Et donc, bah, j'ai plus été déléguée des délégués. J'ai dû être déléguée des délégués 14 heures dans ma vie, tu vois. Et je suis rentrée chez moi, j'en ai parlé à mes parents, mais mes parents étaient un peu à la stricte, à la dure, en fait. Et encore une fois, ils ne voyaient pas le mal. Si tu veux, quand tu n'es profondément pas raciste ou quand tu vois pas, en fait, ce genre de choses. Et puis, c'était peut-être même pas forcément du racisme, c'était peut-être du classicisme. Donc, c'était peut-être un truc de caste et de moyens financiers. À mon sens, je pense que c'est peut-être des parents, tu vois, qui se sont insurgés en disant « Mais comment cette personne peut représenter nos enfants ?» Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. C'était une profonde injustice parce que je me suis retrouvée seule face à ça. Mes parents me disant « Ah, mais c'est parce que certainement que tu as été relou. » Tu vois, les parents à l'ancienne qui mettent ça sur ton dos plus qu'autre chose. Mais du coup, ouais, tu dis ça, c'est profondément injuste en fait. Et on ne peut pas t'enseigner pendant des années la démocratie et te faire sauter sous couvert de raisons obscures. Donc ouais, mais ça, c'est des détails. Après, il m'arrive un tas de choses. Mais je te parle vraiment de cette époque-là, où t'es vraiment gamin, où ça peut te marquer, tu vois. Des gens, je te dis, qui t'insultent dans la rue, tu sais pas pourquoi, en fait, tu vois.
Tu parles de détails, mais c'est quand même assez...
Ah, elle est pas mal, l'histoire des troisièmes, celle-là est pas mal, ouais. Ouais, ouais.
Alors justement, donc il y a le rap qui devient un exutoire. Et en préparant cette interview, j'ai découvert quelque chose. En 84, sur TF1, existait une émission animée par Sydney qui s'appelait « À chipper, à choper ».
Complètement.
Donc sur la 6, dans les années 90, Rapline. Moi, ma première réaction, ça a été de vérifier les dates deux fois. Je me dis, mais attends, c'est bien 84, c'est bien 90, parce que ça me paraît assez étonnant que la télé ait alloué des créneaux à la scène urbaine si tôt.
C'est ouf, hein.
Et à des créneaux pas si confidentiels, parce que HIPHOP, c'était...
TF1, Prime, l'après-midi.
C'était l'après-midi, ouais. Avant Starsky et Hutch, quoi. Ouais. Donc ça pouvait être une audience assez conséquente. Aujourd'hui, alors que le rap est plus démocratisé, à la fois j'ai l'impression que les médias mainstream sont un peu plus frileux.
Ah bah c'est une bonne impression mon ami Tom.
Ah bah oui.
T'imagines en plus, en 84, HIPHOP était la première émission hip-hop au monde devant les Américains dont c'était la culture. Tu vois, à quel point la France était rock'n'roll. Enfin tu vois, les années 80, de toute façon, il y avait un tas d'émissions super rock'n'roll. Je trouvais que les interviews étaient fun, qu'elles soient en politique ou dans la musique, c'était hyper open. Et je ne sais pas ce qui a généré cette régression. Bien sûr que là, on est dans une espèce de déni où des fois, tu dis, mais les gars, enfin, là, aujourd'hui, c'est l'Algérino qui m'avait dit un jour, moi, ça y est, on a passé le stade de devoir se justifier, en fait. Maintenant, c'est aux détracteurs et aux gens qui sont complètement réfractaires de se justifier. Parce que là, c'est le nombre. C'est-à-dire, le rap, c'est même plus une musique du ghetto, de la banlieue, etc. Les petits du 7e appellent leurs parents gros. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas... à la campagne, c'est tellement démocratisé que t'as même des rappeurs du RN. Tu vois ce que je... C'est quand même un truc de fou. Donc, bon, ça, on en reparlera de cette appropriation. Ou pas d'ailleurs, donc c'est même plus un sujet, on le sait, et c'est pas du tout nouveau. Le discours d'il y a 20 ans où on te disait « Oui, mais tu sais, ça a été difficile pour les rockers aussi. » Ça n'a pas été aussi difficile. Parce qu'au bout d'un moment, ça s'est complètement démocratisé, les rockers se sont retrouvés absolument partout. C'est pas le cas pour le rap. Et c'est pas le cas pour le rap parce qu'on considère que c'est une couche de la population, une souche de la population qu'on ne veut pas forcément laisser briller. Mais encore une fois, le temps fait les choses. Il faut juste avoir du cardio, en fait. Et tant pis pour ceux qui n'ont toujours pas compris. C'est dommage, en fait. Parce qu'il n'y a même pas de... Aujourd'hui, les gens voient des ennemis là où il n'y en a pas, en fait. Alors, évidemment, tout ça agrémenté par pas mal de médias et de discours très peu nuancés. On n'est pas dans la nuance. Mais aujourd'hui, le rap, c'est plus de la revendication. Le rap, c'est de la variété. Le rap, c'est... Il y a de tout. Tu as du rap conscient. Avant, faire du rap conscient, c'était un pléonasme. Tu te devais d'être conscient quand tu faisais du rap. Aujourd'hui, tu peux faire du rap zumba. Tu fais du rap ce que tu veux. Tu fais du rap où tu racontes rien. Tu fais de la drill. Et ce n'est pas un problème, en fait. Il y a 1000 versions du rap parce que le rap est devenu un style musical dans son entièreté, un peu comme le rock. Mais les gens sont encore réfractaires, ouais, en effet. Et c'est un manque de culture, mais au bout d'un moment, je pouvais l'entendre il y a une quinzaine d'années, c'est inaudible aujourd'hui, parce qu'on a aussi les outils pour écouter, comprendre. Les mecs, ça va aligner trois fois en suivant sans problème, ont des schémas de pensée brillants pour bon nombre. Où est le problème? C'est Patrick Lelay, président historique de TF1 à l'époque, oui. Il disait que lui, sa chaîne était faite pour... vendre du temps d'espace disponible,
du temps de cerveau disponible.
Du temps de cerveau disponible pour vendre du Coca-Cola. Oui. Et on sait qu'en privé, en tout cas sur les chaînes privées, évidemment, la question, c'est pas qu'est-ce qu'on va mettre entre les programmes. La question, c'est qu'allons-nous mettre entre les pubs pour avoir un maximum d'audience, pour vendre la pub encore plus cher. Donc si on est dans une réelle logique économique, vu que le rap, c'est ce qui fonctionne, pour quelle raison on ne voit pas le rap? Alors ça, c'était il y a une dizaine d'années ou quinzaine d'années. Puisque là, aujourd'hui, finalement, les gens qui écoutent du rap, qui sont dans le rap, n'ont plus du tout de culture de télé, en fait. C'est, plus
c'est
du
ce
tout
que j'allais te dire, ouais. En fait. Parce qu'il y a 10 ans, c'était un mystère. Aujourd'hui, l'audience qui écoute du rap n'est pas devant la sa télé.
Il y a un truc qui est formidable dans notre culture, c'est que le rap est résilient. Et que, bah, la porte est fermée, on passe par la fenêtre. Ou la cave. Il n'y a pas de médias, bah, on va créer nos médias. Il n'y a pas de studio, c'est trop cher. Bah, on va enregistrer dans une salle de bain. Les Macumba ne veulent pas en concert. Et bah, on va faire nos chichas et on va faire nos tournées. Là, c'est vraiment du par nous pour nous, tu vois? Même si c'est pour tous au final. Donc aujourd'hui, le rap n'a absolument pas besoin. Ça ne change rien en fait pour le rap. Les rappeurs, les rappeuses, ça ne change rien pour eux de passer. Enfin, ça ne change rien. Tout est relatif, hein, parce qu'une bonne petite playlist sur énergie, quand même, c'est pas rien, tu vois? C'est très rémunérateur, bien plus que du stream en réalité. Donc les médias généralistes ont une économie qui permet aux artistes de vivre. Donc c'est important. Mais. Ils n'ont plus le pouvoir aujourd'hui de faire découvrir auprès du plus grand nombre des artistes. Là, les gens ont appris à faire leurs petites recherches de leur côté. Ce qui est pas mal aussi.
Pour revenir à toi, effectivement, 18 ans, t'arrêtes l'école. Tes parents te disent, bah, faut faire quelque chose maintenant. Et tu te retrouves à l'aéronef de Lille.
Yes.
Qui s'occupait notamment d'un festival baptisé Pas de quartier.
C'est ça.
Et c'est là que l'histoire commence, en fait.
Complètement, ouais.
C'est là où vraiment tu deviens une actrice de l'industrie du rap.
Je commence, j'apprends à devenir actrice. C'est vrai que, en fait, cette histoire de BTS Force de Vente où je devais vendre des porte-clés à l'effigie de l'école dans les rues de Lille, ça m'a quand même pas vendu du rêve. Et en fait, je découvre les backstage du concert des Fugees au Zénith, par chance. Et c'est vrai que j'identifie les métiers derrière une passion. Parce que tu sais, quand t'es pas dans la musique, tu n'imagines pas en fait les métiers qui peuvent y exister. Et c'est vrai que j'ai dit à mes parents le lendemain du concert, j'arrête l'école. Ils m'ont dit, super, si t'arrêtes l'école, t'as trouvé un travail parce que tu restes pas à la maison à dormir jusqu'à midi, ça c'est impossible. Si t'as ni l'un ni l'autre, tu restes pas à la maison. C'était dur, mais je pense qu'ils pensaient que j'allais rester à l'école en attendant de trouver un taf. Et moi, j'ai dit, ok, je pars. Donc, il m'a fallu quand même 8 mois. Tu sais, souvent, je cut a long story short parce que c'est cool de raconter les belles histoires, mais c'est vrai que j'ai toujours, entre les belles rencontres et les bons trucs, j'ai quand même eu des sauts de l'ange de 50 étages d'immeubles, beaucoup de difficultés. Là, j'ai eu un bon 8-9 mois avant de réussir à trouver un taf à l'aéronef de Lille, où j'ai été embauchée par Manu Baron, qui montait une équipe en fait, de jeunes passionnés de rap pour les professionnaliser.
Et donc, avec cette programmation qui était hyper intéressante, là, tu commences, là aussi, j'accélère un peu, mais tu commences à faire de la promo indépendante, puis du management.
Ouais.
Tu te lances dans l'aventure parisienne.
Mm-hmm.
Tu as été manageuse notamment de Bougotop, puis directrice de label. Finalement, tu fais ton chemin, quoi. Hein. Ça va tout droit. Hein.
Ça va tout droit, je me bagarre. C'est pour ça que c'est important. Je me suis rendu compte, à force de raconter mon histoire, qu'en fait, on a l'impression que ça a été fluide et en même temps, ouais, je vais tout droit, mais ça a été énormément d'épreuves, énormément de difficultés. Mais à chaque fois, tu te retournes, tu regardes derrière toi et tu te dis, j'ai trop investi pour faire demi-tour. Là, j'ai quitté la maison, j'ai quitté Fourlan Web. Ensuite, tu quittes Lille. T'es toute seule à Paris au milieu du rap game, tu vois. Et c'est vrai que j'ai la chance, au bout de 3 ans, de me faire embaucher. Ouais, 2 ans et demi de vie parisienne en indépendant dans le rap game. Tu vois, entre Bougotop, Expression Directe, Rude Lion et la Mafia Quinfri. Donc, autant te dire que c'était pas le village des bisounours. Enfin, c'était très bien avec eux, c'était mes potos, quoi. Mais c'est vrai que c'était un milieu qui était quand même assez rude, en fait. J'ai eu la chance d'être embauchée en tant que chef de projet chez Next Music par monsieur Patrick Colleoni, paix à son âme, et puis ensuite de devenir DA et label manager.
Cette période un peu de montagne russe finalement, parce qu'on peut appeler ça comme ça, ça a duré combien de temps?
Oh bah 46 ans. Non mais montagne, bah non mais les, tu sais, je crois que ouais, les montagnes russes, je les ai eues de l'âge de 18 ans jusqu'à 21 ans. Ensuite, j'ai fait 21 ans à 26 ans en maison 10, donc là j'étais plutôt stable, et puis à 26 ans j'ai monté ma boîte, et de 26 ans jusqu'à aller peut-être 40 ans, tu vois. C'est-à-dire 14 ans de montagne russe aussi. Parce que, de toute façon, quand t'es indépendant et que t'es pas cédéisé quelque part ou dans une boîte, c'est toujours les montagnes russes.
Influence musique.
Yes.
Ta boîte. Ouais. Et je veux que tu me racontes cette anecdote, on en parlait dans le hall. Énergie, tu connais la maison.
Ouais.
Mais à l'époque, t'étais pas venu en tant qu'invité.
Non.
Et je sais que tu l'as déjà raconté en interview, mais s'il te plaît, raconte-la pour moi.
Énergie, c'est le Graal. D'accord ? Je connais pas les chiffres, mais c'est clairement l'une des plus grandes radios de France. Alors pour le rap, c'est Skyrock, mais en réalité, quand en plus tu fais le crossover de passer non seulement sur Skyrock, mais ensuite sur Energy, qui est encore plus généraliste, là ça y est, t'as tout gagné. Et c'est vrai que je manage les Brick and Lace à l'époque, parce que je fais du management dans les pays francophones pour des artistes internationaux, et les Brick and Lace qui sont managé par Chris Smith, qui est le manager de Nelly Furtado, que je représentais, me tape dans l'œil. Elles ont un titre qui s'appelle Love is Wicked. Je trouve ça incroyable. Et je dis à Chris, moi, je veux les développer, quoi. Et je connaissais bien le dancehall. Je m'occupais de plein d'artistes via VIP Records, etc. à l'époque. Il me dit, ouais, mais bon, là, j'ai pas d'argument. Enfin, je viens de les récupérer de chez Econ. Elles étaient, je crois qu'elles ont fait un an avec Econ. Et je commence à les push. Finalement, ça rentre quand même sur Ado FM. C'est pas mal, Ado FM, etc. Et me voilà, frappé à la porte de Roberto, que je salue s'il nous entend, grand monsieur, raconter n'importe quoi en lui disant, pas n'importe quoi, je lui dis absolument tout ce que je pense des Brick and Lace. Love is Wicked, c'est un banger, tu vois. Mais je savais qu'il fallait que je rajoute un petit truc, c'était quand même chez Polydor à l'époque, mais il fallait quand même que je rajoute du piment. Et donc, moi, j'ai fait croire à Energy dans un premier temps qu'elles étaient produites par Econ, qui avait une hype de fou à l'époque. Et donc, je montrais les EPK avec les filles en studio, avec Econ, etc. Et je sais que ça, j'ai un peu joué tout double, parce qu'en fait, les filles, elles étaient aux États-Unis. En France, l'option n'était pas du tout levée en maison de disque. Et donc là, si jamais ça se plantait, ça allait devenir un peu compliqué. Même très compliqué, parce qu'on n'allait plus me faire confiance. Mais on a vendu 600 000 singles. Donc au final, tout le monde était content. Mais j'ai un peu menti quand même.
Et c'est passé sur Énergie.
Et c'est passé fort sur Énergie, en grande playlist. Et je te dis, vraiment, entre autres, mais grâce à Énergie, forcément, parce que quand tu fais 600 000 singles en physique, peut-être même 700 000, c'était complètement fou, en fait.
En physique, on l'oublie maintenant.
Mais... Ah bah oui, mais physique, c'est autre chose. Tu te vas à la Fnac, au Virgin, aller acheter ton single, etc. On a quand même fini par faire la Star Academy, plateau et tout. Non, c'était assez fou.
Alors justement, moi, j'aimerais savoir quelque chose. Combien de fois t'as-t-on dit que tel ou tel titre n'allait jamais marcher ? En fait, si.
Toute ma vie. Incroyable. Non, c'est fou. Moi, je sais que j'ai l'oreille. Encore une injustice, tu vois. Quand j'étais en maison disque indépendante, il y avait vraiment ce système, encore une fois, à l'époque, si t'étais pas en major, t'avais quand même vraiment peu de chance de breaker un artiste, quoi. Parce que les radios étaient vachement... les radios et les télés étaient en bisbille avec les majors. Et donc, du coup, la vocation des maisons de disques indépendantes, c'était de développer les artistes, vendre 50, 60 000. Et une fois qu'on vendait 60 000, avoir une major qui propose un chèque 100 fois plus gros que ce que tu ne pourras jamais proposer. Et d'un seul coup, une fois que l'artiste était en major, là, ça finissait en playlist radio. Donc, il y avait quand même un petit truc de mafia, quoi, à l'époque. Mon plus gros... franchement, ma plus grande victoire. Mais ça finit chez vous aussi.
Ah ouais ?
Bah, c'est Magic System. Premier Gaou qu'on m'a refusé... à beaucoup d'endroits. Mais Sean Paul, Give Me The Light aussi. Enfin voilà, c'est... Après, les goûts et les couleurs, quoi. Mais tu dis, bon, quand même, c'est un peu gros comme une maison. Et puis, moi, j'arrivais jamais dénué d'arguments, en fait. Mais c'est comme ça. C'est vrai que quand tu es en indé, mais c'est pareil pour tout. Ça revient à ce que je te disais tout à l'heure sur les autodidactes. Quand tu n'as pas de diplôme, même si tu as 100 fois plus d'expérience, tu te retrouves à devoir démontrer 10 fois plus, en fait, simplement parce que tu n'as pas la bonne étiquette. Mais ce n'est pas grave, parce que toutes ces difficultés ou cette adversité-là te permet d'apprendre encore plus et d'être encore plus redoutable, en fait, ou efficace dans ce que tu fais.
Et comme tu aimes les défis, mm-hmm. En parallèle d'Influence Musique, tu veux te lancer dans une carrière médiatique.
Alors, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque où j'étais jeune et fraîche, mon ami, apparemment... on me proposait de faire de la télé, c'est pour présenter des trucs. Mais ça m'a jamais rien dit, moi, de présenter des choses dont je ne produisais pas le contenu, tu vois. Et pareil, c'est faire de l'animation radio. C'était pas mon truc. Alors, bien sûr que j'ai une voix particulière, mais j'avais pas vocation à ça. En revanche, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Moi, j'aime transmettre, en fait, avant tout. C'est ça, moi, mon truc, c'est mettre en lumière. Donc, quand je manage, quand je suis chef de projet, quand je suis DA, quand je suis... ce que tu veux, je transmets en fait, en réalité. Et donc, je me dis, ouais, pourquoi pas faire de la radio, de la télé, si toutefois on me donne la possibilité de créer mon propre contenu. Et un jour, Claudie Sciard m'a proposé de le faire dans sa radio, d'abord. Et puis, de fil en aiguille, je l'ai rejoint sur une autre radio où je suis devenue chroniqueuse. Et après, en télé aussi, en parallèle. Donc, j'ai vraiment fait mes classes. Et ça a duré une bonne dizaine d'années. Mais parce qu'après tout, encore une fois, c'est un métier qui s'apprend. Et être chroniqueur ou faire de l'interview, bah, ça y est, ça devient un métier de journaliste. Et c'est pas parce que j'avais vu 1 milliard d'interviews dans ma vie avec les artistes que j'accompagnais que j'étais pour autant capable de le faire. Donc encore une fois, ça demande aussi de l'humilité. Et c'est important ça. Humilité, laisse passer le temps, apprends. Et puis une fois que tu seras bon, tu seras OP, bah ouais, là, plus, tu pourras peut-être faire plus de bruit.
Alors tu vois, ça c'est... C'est un de mes problèmes. Je ne sais pas si c'est lié à notre société aujourd'hui, mais c'est vrai que souvent, les journalistes qui ont de la bouteille m'ont toujours dit « prends ton temps mm-hmm. ». Est-ce qu'on peut se le permettre encore aujourd'hui de prendre son temps ?
Je pense qu'il faut aller vite et prendre son temps. Ça veut dire en fait, il faut être proactif, il faut être créatif. Il me semble qu'il faut, oui, il ne faut pas lâcher une miette, il faut vraiment regarder autour de soi, il faut savoir s'écouter aussi et proposer des concepts novateurs, quitte à ce qu'ils soient contre-courant dans un premier temps. Mais tout ça demande du temps, en fait, réellement. Et en fait, ça demande beaucoup de travail. Je reviens souvent sur cette valeur de travail. Et puis après tout, la reconnaissance, je trouve que c'est bien quand elle n'arrive pas tout de suite. Moi, je suis heureuse, en fait, finalement, d'avoir cette reconnaissance aujourd'hui et de ne pas l'avoir eue à 35 ans. Parce que j'en aurais fait peut-être autre chose. cette notoriété, ce tourbillon dans lequel tu peux être embarqué, dès lors que justement les choses fonctionnent, c'est pas toujours une bonne chose que ça arrive super vite, en fait, parce que tu fais pas forcément les bons choix et t'as pas forcément la maturité. Donc un peu des deux.
S'il y avait quelque chose, un souvenir ou une personne de ton passé que tu aimerais faire revenir dans ton présent, ça serait quoi ou qui ?
Non, je pourrais te parler de mon père, évidemment, de ma grand-mère, évidemment, les proches, tu vois. Je pourrais te parler de Rude Lion, qui est une légende, qui est un peu notre Tupac français. Ouais, je voudrais que les gens que j'aime reviennent, évidemment.
À chaque fois, quand je pose la question à mes invités, ils pensent immédiatement à des personnes. Rarement à des choses, à des souvenirs, à des...
Ah !
C'est ce que je demande,
que je
après tout.
Parce que je ne regarde pas dans le rétroviseur.
D'accord.
J'ai eu des super moments, c'est super. Mais vas-y, what's next ? Allez, on avance, tu vois ? J'ai beaucoup de gratitude pour ce que j'ai vécu, j'ai beaucoup de lucidité, tant pour les moments de grâce que pour la difficulté, et ce que ça m'a coûté parfois de les avoir, ces moments de grâce, j'ai hâte de voir la suite.
Bah justement, on a fait le présent, le passé, qu'est-ce qui nous reste ?
The future, baby.
Tu penses parfois à l'après-légende urbaine ?
Oui, ça fait peur de fou.
Pourquoi ?
Parce que t'es obligé d'y penser, on connaît, c'est la loi des médias. Pour le moment, je suis pas encore arrivée au niveau auquel je voudrais être avec légendes urbaines. J'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à accomplir. Mais je sais à quel point il est difficile d'imposer ses projets. Donc, et on ne prête qu'aux riches. Donc c'est vrai que parfois tu dis « Waouh !» Il faut en profiter parce que tu ne sais jamais de quoi demain est fait, en fait. J'ai évidemment un milliard d'autres projets et d'autres envies. Et je trouverai bien quoi faire. Et ça ira en tout cas dans le mindset, dans l'état d'esprit général de légendes urbaines sous diverses formes. Voilà.
Tu dis que tu n'as pas encore tout fait dans légendes urbaines. Pour toi, ça sera quoi l'aboutissement ?
Alors, il y a plusieurs choses. J'aimerais beaucoup, tu sais, on est écouté un petit peu dans le monde entier, on est suivi dans le monde entier. On a fait un plateau il n'y a pas très longtemps, justement, au Congo, à Brazzaville. C'était assez incroyable. Moi, les légendes urbaines représentent réellement quelque chose sur le continent africain. Parce qu'on est l'une des rares émissions qui traitons à la même enseigne, qui mettons à la même enseigne les artistes du continent avec les artistes occidentaux. C'est vrai qu'en fait, un Fally Ipupa qui fait 130 000 personnes à Kinshasa, ou Gianni Alpha qui remplit deux fois 90 le stade de Conakry avec 90 000 personnes, c'est une légende réellement, en fait. Et puis les artistes du continent inspirent vraiment le reste du monde. Et donc c'est vrai que c'est important de pouvoir les traiter de la même façon. Et quand on va faire des tournées et des émissions en direct, c'est absolument formidable. Ça, c'est des choses que j'ai envie de faire. J'aimerais beaucoup que les légendes urbaines soient plus connues auprès du plus grand nombre. J'aimerais beaucoup que des personnes qui regardent des chaînes très, très généralistes franco-françaises puissent connaître les légendes urbaines à Limoges, etc. Là, pour le moment, ça devient c'est très rap, c'est très bobo ou hype, mais pas encore populaire. Et j'aimerais beaucoup que les gens puissent s'y intéresser, pas pour moi, mais pour toutes les belles choses que mes invités ont à délivrer.
C'est marrant que tu parles de Limoges, je viens de là.
Ah,
je suis né là-bas.
Connecté. Et ben, à Limoges, ils ne sont pas très légendes urbaines, tu vois.
Ah, c'est pas dit.
Il doit y avoir quelques personnes. Mais si tu veux, tu parles de légendes urbaines, tu vois, souvent en province, il y a plein de gens, tu vois, qui ne savent pas ce que c'est, quoi. Et j'aimerais bien qu'ils sachent, parce que le message est joli.
On l'a abordé au cours de l'interview, les artistes ont l'air de se lasser des promos traditionnelles et ont envie d'explorer d'autres formats. Ouais. Selon toi, à quoi ressemblera l'interview de demain ?
J'espère qu'il sera humain. Ça pourra peut-être être fait avec un IA aussi, un robot, tu vois. Donc, ce ne sera pas super humain non plus. Mais peut-être que l'IA va devenir plus humain que les humains qui se déshumanisent de plus en plus aujourd'hui. Donc, qui sait ?
On verra bien. Juliette, je demande à toutes les personnes présentes de quitter ce studio.
Mais non, j'ai trop peur. Ça va, les filles ? Vous voulez bien ? Allez, arrivederci. Pourquoi les gens doivent partir, Tom ? C'est trop marrant.
Je vais déclencher la capsule. Tu seras complètement seul pendant une minute. L'occasion de te confier sur le sujet de ton choix. Déclenchement de la capsule dans 10 secondes. Et moi, je te dis au revoir, Juliette.
10, 9, sujet de mon choix. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Open the capsule. C'est l'histoire du feu dans la jungle. On ne sait pas quelle jungle. Tout le monde se sauve, les animaux royaux, les tigres, les lions, les éléphants. Seul le colibri fait des allers-retours, prend des petites gouttes d'eau dans son bec et fait des allers-retours pour essayer d'éteindre le feu dans la jungle. Évidemment, au bout de 200 allers-retours, il se brûle les ailes. Et puis, il va mourir. Il s'épuise. Il réussit à se poser au bord de la rive. Et dans son dernier souffle, le lion le regarde et dit « Mais enfin, petit colibri, tu pouvais pas éteindre le feu dans la jungle ?» Et lui, le petit colibri, eh bien, répond au lion « Je sais que je pouvais pas éteindre le feu dans la jungle, mais moi au moins j'ai fait ma part. Soyez des colibris. » Soyons des colibris et merci à Pierre Rabhi pour cette histoire.